Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
8h49 sur Sud Radio, c'est l'heure de démarrer les grands débats du matin avec Alexis Poulain et Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris et porte-parole La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
Et on commence par passer, alors déjà, bonjour Sylvain Maillard.
Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Oui,
ben,
bonjour.
Forcément. Et puis on lance un appel aussi à Alexis Poulain, parce que s'il nous écoute à l'entête sur Sud Radio...
Bah, il est temps de se réveiller.
Bah, il est temps de se réveiller, je crois qu'il s'est rendormi. Bon, en tout cas, on va commencer bien sûr avec vous, Sylvain Maillard. C'est l'occasion, alors Alexis Poulain qui en parlait tout à l'heure, de cette question de l'accélération du calendrier. Clairement, les choses se précisent. On accélère du côté de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Ça a été déjà une première surprise, cette annonce du pass vaccinal. Et puis très rapidement ensuite, cette accélération du calendrier. Il y a un petit côté sauf qui peut, où finalement on s'adapte au jour le jour à cette situation du côté du gouvernement?
D'abord, ça n'a pas été une surprise parce que c'était un dispositif sur lequel nous travaillons, entre autres avec les députés. Nous travaillons depuis quelques jours, en fait, avant l'annonce, pour voir comment nous pouvions le caler. Oui, le virus ne nous demande pas s'il y a des vacances, ne nous demande pas ou ne nous annonce pas son calendrier. On doit s'adapter en permanence. Ça fait depuis mars 2020, en permanence, nous nous adaptons à la situation. La situation, quelle est-elle? Elle est bien meilleure en France, certes, que chez nos voisins européens. Mais alors, regardez, les contaminations sont en accélération très forte chez nous. Mais chez nos voisins en Angleterre, en Allemagne, en Italie, sont bien supérieurs à ce que nous connaissons en France. Et le variant Omicron est un variant qui contamine très fortement. Je regardais le chiffre. Les taux d'incidence entre les 20 pour les 20 et 29 ans, donc de 20 à 29 ans, est de 1748 à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y avait 1,7% des
c'est
jeunes
vraiment la tranche d'âge
qui ont
pour
été
le coup,
testés positifs. 1,7% des jeunes en France ont été testés positifs. Donc on voit bien qu'il y a une accélération très forte. Nous sommes en plus en pleine période de Noël, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver, je l'espère, en tout cas je le souhaite à tous, en famille. Oui. Bah, c'est un moment, évidemment, où il faut faire très attention. Se vacciner, se faire vacciner, troisième dose, absolument. Ceux qui n'ont pas été encore vaccinés, bah, je crois qu'il y a un moment où il faut se prendre en
main. On a l'impression que le gouvernement durcit le ton, hein, et notamment aussi pas mal de députés de la majorité vis-à-vis des non-vaccinés. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement de les perdre totalement?
Hier soir, à La Riboisière, moi je suis député de Paris, La Riboisière, sur 11 personnes en réanimation, service absolu, hein, réanimation absolue, vraiment le dernier stade, vous avez 10 non vaccinés. 10 non vaccinés sur 11. Et la personne qui est vaccinée est une personne très âgée. C'est ça la situation. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas vaccinés se mettent en grave danger. Je le dis très clairement, en grave danger. Et donc... moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Je pense que certains peuvent avoir peur, ont pu avoir peur au début. Enfin, là, c'est très sérieusement, il y a des milliards de gens dans le monde qui sont vaccinés. On en est encore là à se poser la question. Vous savez, moi, au moment du pass sanitaire, en juillet, j'ai eu beaucoup de concitoyens de ma circonscription, du centre de Paris, qui m'ont écrit, moi, je les ai tous rappelés un par un, et qui avaient tous une raison pour m'expliquer pourquoi ils ne voulaient pas se faire vacciner. Des raisons qui peuvent, à la limite, s'entendre. Enfin, on voit que le temps a passé. La peur de la piqûre, c'est la peur ancestrale de la piqûre, bah, je crois qu'il faut passer outre. Il faut faire en sorte, d'abord un geste pour soi, un geste pour les autres, enfin finir en réanimation, vous savez ce que c'est d'être intubé? Je ne comprends pas encore France du XXIe siècle, on soit encore avoir peur d'un vaccin.
Elle n'est pas neutre, la décision du pass vaccinal. C'est-à-dire qu'on dit pass vaccinal, on ne dit pas obligation vaccinale. Pourquoi on en est encore là? Parce que finalement, c'était jouer plus franc-jeu de dire bah, « voilà, on fait l'obligation vaccinale, on y va ».
Oui, vous avez raison, on peut discuter là-dessus. On va être très concret. Moi, je fais de la politique pour être dans le concret. Vous savez, j'ai une vie à côté, je ne fais pas que de la politique, je suis chef d'entreprise aussi, et donc moi, je m'engage pour être concret. On ne va pas aller chercher avec un policier ou un gendarme toutes les personnes en France qui n'ont pas été vaccinées pour les prendre et les forcer à se faire vacciner. Enfin, vous imaginez bien, c'est pas gérable à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, je le regrette, on le constate, on le regrette, bah quelque part, n'empêche pas les autres de vivre. C'est ça ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que j'appelle chacun d'entre nous à se faire vacciner la troisième dose, c'est important, et pour pouvoir avoir une vie à peu près normale en France.
Il y a des Français, il y a beaucoup de Français qui se posent la question, et notamment Alexis Poulain, qui n'est toujours pas avec nous, qu'on va relancer, bien sûr, mais qui nous disait tout à l'heure dans son édito politique, ça vous fait sourire, et comme ça vous avez un peu plus de temps d'antenne, vous en profitez, hein, Sylvain Maillard. Bon, en tout cas, et nous disait Alexis Poulain, il nous rappelait qu'en Israël, on en est à la quatrième dose. qu'on ne sait pas finalement combien de doses on va devoir faire du vaccin pour justement pour mettre un terme ou en tout cas essayer d'avancer dans la lutte contre le Covid. Vous comprenez que là-dessus, il y a beaucoup de Français qui se disent mais jusqu'où ça va aller, enfin.
Vous savez quoi ? Nous n'avons pas la date de fin du Covid-19. Nous n'avons pas la date de fin. Par contre, ce que nous avons en main, c'est notre destin. C'est-à-dire qu'on est capable, on a la chance d'avoir ce vaccin. On a la chance de pouvoir avoir une vie à peu près normale. Et donc, usons-la.
On va à 8h54, on va reprendre ces débats avec vous et puis avec nos auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez une réaction justement par rapport à ce que vient de dire Sylvain Maillard, je le répète, un député LREM de Paris, si vous voulez participer au débat, n'hésitez pas, vous nous appelez. D'ici là, vous nous appelez aussi pour autre chose, hein,
oui.
En l'occurrence, ma chère Marilyn, pour,
nous sommes dans la semaine
pour
de
un
Noël.
Petit ou un gros cadeau.
Ah, toujours des beaux cadeaux en tout cas, sur Sud Radio, c'est toujours Noël, votre cadeau est au pied de notre sapin. On vous offre toute cette semaine des livres CD collecteurs aimés encore, dédicacés par Julien Doré, des chocolats Nogalais, des sauts en parachute en tandem chute extrême. Appelez maintenant le 0826 300 300. Et alors, monsieur le député, quel un chiffre entre 1 et 20, s'il vous plaît ?
Je dois le donner ?
Oui.
4.
Le quatrième appel.
Et ben voilà. C'est qui participe.
C'est le quatrième appel qui sera dans un instant en direct pour recevoir son cadeau de Noël Sud Radio.
Bonne
on
chance
attend vos
à
appels.
Tous et à tout de suite dans un instant pour la reprise des débats du Grand Matin. À tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h19 sur Sud Radio, vous êtes bien avec nous et on vous accueille avec plaisir pour la suite de nos grands débats du matin et une question qui concerne quelques candidats en ce moment. Et oui, l'obligation d'avoir 500 parrainages d'élus pour les candidats à la présidentielle est-elle démocratique et doit-elle être réformée ? Pour en parler, notre invitée Anne-Marie Le Pourrier, juriste spécialiste de droit constitutionnel, professeure des universités en droit public à l'université Rennes 1, vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Anne-Marie Le Pourrier, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La question des parrainages qui revient plus que jamais dans l'actualité avec le nouvel appel lancé hier par Éric Zemmour en direction des maires, le candidat qui craint de ne pas pouvoir obtenir ses 500 signatures. Déjà ma première question, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des candidats dans les intentions de vote autour de 10, 12, 14% ne parviennent pas à obtenir leur parrainage ?
Non, pas véritablement, mais des craintes de ne pas l'avoir, il y en a eu de manière récurrente, notamment de la part de Marine Le Pen. Il faut savoir qu'au début de la Ve République, il fallait seulement 100 parrains et le nom des parrains n'était pas publié. Et puis, c'est en 76, à la suite d'une accumulation de trop de candidats et de candidats fantaisistes qui corrompait un petit peu le système, qu'on a décidé de porter à 500 le nombre de parrains en assurant également la publicité du nom des parrains. Mmh. Et donc, régulièrement, depuis un certain nombre d'années, Jean-Marie Le Pen ne s'était pas plaint, mais Marine Le Pen s'est régulièrement plainte à l'approche des élections de ne pas être certaine d'avoir les candidatures nécessaires. Et elle a même fait une QPC devant le Conseil constitutionnel en 2012.
Une question prioritaire de constitutionnalité, oui, effectivement.
Ouais. Oui, voilà, pour essayer de faire abroger la règle de publicité en disant les élus hésitent, ils ont peur des représailles de leur parti et donc ils ont peur de me donner des parrainages. Et donc, elle voulait faire abroger la règle de publicité des parrainages, mais le Conseil constitutionnel l'a retoqué en indiquant que c'était une mesure destinée à assurer la transparence du système électoral et que ça n'avait strictement rien d'inconstitutionnel en soi.
Anne-Marie Le Pourrier, la question du nombre, de limiter un petit peu le nombre de candidats, en tout cas d'éviter d'avoir des candidatures trop fantaisistes, c'est finalement le seul objectif finalement de ces parrainages ?
Ah oui, tout à fait, ça a toujours été le but, hein, c'est-à-dire c'est éviter des gens comme, alors par exemple, Coluche ou autres, ou des tas de gens qui ont un hubris un petit peu développé, qui s'imaginent qu'ils peuvent être président de la République. Alors, il n'y a pas que ça, il faut que les parrainages soient issus aussi de 30 départements différents.
C'est ça, pour la représentativité.
une personnalité locale que par exemple tous les élus corses mettent à soutenir simplement un candidat chez eux ou quelque chose de ça. Donc il faut s'assurer aussi que ce soit une personne qui a une notoriété nationale, si vous voulez, une envergure nationale. Donc tout est, ce ne sont pas des règles très très dures en soi, mais elles sont destinées quand même à éviter un peu des candidatures trop fantaisistes ou trop de candidats également, parce que on peut quand même pas distribuer de l'argent public, du temps d'antenne, etc. À n'importe quelle personne qui dirait, allez hop, moi je veux être président de la République. Il faut bien quand même qu'il y ait un minimum de règles.
On en a parlé, la question de l'anonymat ou non de ces parrainages. C'est un changement qui a été opéré en 2017 avec cette levée de l'anonymat. Maintenant, il y a une publicité autour du nom justement de ces parrainages, de ceux qui soutiennent finalement ces différents candidats. Est-ce qu'on arrive à mesurer un petit peu l'impact que ça a eu depuis?
Ah non, non, non. La publicité date de 1976.
D'accord.
Bon, et la publicité régulière, deux fois par semaine, au fur et à mesure que les parrainages arrivent, ça, c'est plus récent.
D'accord, hein. Ok.
Mais en tout état de cause, la publicité, la révélation des noms des parrains, ça, c'est une règle de publicité qui date de 76 également.
Voilà, j'avais mal compris, mais effectivement, c'est important de le préciser.
ça peut se discuter. La preuve, c'est qu'en 62, le Conseil constitutionnel a dit ça n'est pas contraire à la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas, on ne puisse pas revenir dessus. Mais son argument sur la transparence ne me paraît pas idiot non plus, si vous voulez. C'est peut-être pas très élégant de dire je parraine, mais je veux pas que mon nom apparaisse. C'est pas non plus très satisfaisant, faut reconnaître.
Anne-Marie Le Pourrier, on va en direction du standard, puisque ça appelle au 0826-300-300 sur Sud
Radio.
Oui,
on a Guy de Paris qui voulait intervenir sur ce sujet. Bonjour Guy, bienvenue.
Bonjour Guy.
Bonjour Manine, bonjour Benjamin, bonjour Madame Le Pourrier.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir?
Oui, tout à fait. Effectivement, l'anonymat n'a pas réellement existé depuis quelques années. Il n'existe quasiment pas. On peut consulter, savoir qui a parrainé. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il est évident qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Donc, si l'élu est solide, c'est une preuve de solidité aussi que d'avoir le courage de ses opinions et de laisser son nom apparaître en tant que parrain. Ou marraine, voilà.
Donc pour vous, c'est justifié, parce que c'était notamment un des arguments que développe une des demandes qu'avait Éric Zemmour, qu'avait Marine Le Pen aussi.
Ça doit être au choix. Ça doit être au choix de l'élu, enfin du parrain, savoir s'il accepte qu'on mette son nom, qu'on dise son nom ou pas. C'est tout. C'est le choix, à la limite. On peut faire un choix dans ce domaine aussi.
Pour vous, ce serait la bonne option. Alors, justement, la réaction d'Anne-Marie Le Pourrier.
Oui, alors je précise que c'est un serpent de mer que cette question, qu'elle revient assez fréquemment dans les débats. Elle a été à l'ordre du jour du comité Balladur, elle a été à l'ordre du jour de la commission Jospin. Le comité Balladur avait proposé un système abominablement compliqué où les parrainages seraient donnés dans chaque département par un collège du type élection sénatoriale avec obligation de vote. Enfin, c'était tellement compliqué que personne n'y a rien compris et on avait fait tomber. Et la commission Jospin, elle avait proposé de remplacer ça par un collège de 150 000 citoyens. Bon, non pas d'élus, si vous voulez.
Mais ça,
et puis là encore, c'est tombé aux oubliettes. Hein.
Et pourquoi c'est tombé aux oubliettes? Parce que c'est vrai que ça aurait pu être une alternative intéressante de donner un moment où l'abstention est quand même très importante dans nos élections.
On pourrait débattre un petit peu plus de tout cela. Le comité Balladur avait évacué l'idée du collège citoyen au motif que lorsque l'élection présidentielle suit une vacance de la présidence de la République à la suite d'un décès, d'une démission, le temps d'organiser les élections est très court, prévu par la Constitution, et que donc ce serait difficile d'organiser cette cueillette des signatures citoyennes. Et il y avait, mais ça c'est faux, ça ne tient plus aujourd'hui, une difficulté concernant aussi l'authentification des signatures citoyennes. Mais ça, on a trouvé le moyen depuis, à l'aide du pour le référendum d'initiative conjointe, de vérifier très facilement les signatures citoyennes. Mmh. Donc ça, c'est pas véritablement un obstacle. Donc on peut remettre l'affaire en chantier, mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a inventé s'est révélé au bout du compte, peut-être pas mieux. Mmh. Hein. Il faut toujours toucher aux institutions avec des mains qui tremblent. Donc, souvent, on veut faire mieux et puis finalement, on fait pire. Donc, jusqu'à présent, les projets dans ce sens sont restés lettres mortes. On n'a pas poursuivi. Mais on peut imaginer, effectivement, réduire un petit peu le nombre de parrains, le mettre, je sais pas, à 300 ou 400. Et on peut peut-être envisager de revenir à l'anonymat. Mais c'est vrai que ça a quelque chose de pas très élégant. L'anonymat, c'est manquer de courage. C'est pas joli en matière électorale.
Bon, en tout cas, on l'a vu pour Guy, qu'on avait à l'instant, qui est toujours avec nous.
Oui,
il serait plutôt de votre avis, en tout cas, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Et puis c'est être solide dans ses bottes que de dire oui, moi je veux qu'on dise mon nom en tant que parrain, ou non, je ne préfère pas. Ça peut être au choix aussi, hein. Mais c'est quand même une preuve de solidité de la part de la personne de laisser dire son nom.
Dernière question, justement, puisqu'on est sur ce terrain-là, et je vous la pose à vous deux pour le coup, et à commencer par vous, Anne-Marie Le Pourrier, parce que ce qu'on pourrait dire aussi, vous rétorquez sur cette question-là, c'est que sur la pression qu'on peut avoir sur certains élus, c'est que on peut que constater que les violences augmentent à l'égard des élus. Et est-ce que ça ne risque pas aussi de d'hystériser un petit peu justement le débat et de mettre en première ligne ces élus dont on sait qu'ils sont déjà qui subissent déjà des violences parfois quotidiennes pour certains?
Alors le comité Balladur s'était inquiété non pas de violences citoyennes à l'égard des élus ou du climat que l'on connaît maintenant, où l'injure, la menace sont monnaie courante désormais, mais ils s'étaient inquiétés de tentatives de marchandage, voire de corruption d'élus. Parce qu'il y a des candidats qui sont prêts à tout pour essayer, et donc on a repéré des cas où des élus ont carrément dit que ils donneraient bien leur signature, mais moyennant quelque chose. Donc vous voyez que rien n'est très élégant, donc le comité Balladur avait été inquiet de ce marchandage qu'il avait jugé contraire à la dignité électorale. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une dimension de violence, notamment de violence verbale, qui s'est répandue via les réseaux sociaux et qui fait qu'on peut comprendre que certains élus aient encore plus peur qu'auparavant.
Vous restez avec nous pour conclure, peut-être Guy, une réaction, parce que vous vouliez réagir aussi à ce sujet-là.
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, les violences existent dans tous les domaines. À partir du moment où, depuis des dizaines d'années, on n'a pas sanctionné suffisamment les violences, donc automatiquement, les violences iront dans tous les domaines. Si vous sanctionnez les violences, les gens se calmeront.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir appelé, Guy, 0826-300-300 sur Sud Radio. Puis un grand merci, Anne-Marie Le Pourrier, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio que vous êtes juriste spécialisé en droit constitutionnel, professeur des universités en droit public à l'université Rennes 1 et puis vice-président de l'Association française de droit constitutionnel. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup. 9h31 sur Sud Radio. Très bon début de journée. À tout de suite avec
Dans un instant, on parle quoi?
Des événements qui ont marqué notre année 2021 avec Félix.
On va faire du sport. Allez, à tout de suite.